Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Cet épisode est consacré aux questions posées par la fin de vie. Comment accompagner les personnes souffrantes dans des conditions humaines ? Comment soulager la douleur dans les derniers moments de la vie ? À propos de la fin de vie, on parle de soulager et non plus de guérir parce que l'évolution de la pathologie ne permet plus d'espérer un rétablissement. Et lorsque cet horizon d'un retour à la santé disparaît, ce qui reste, c'est aux soignants, précisément, de soulager et d'accompagner. Les conditions du moment du mourir marquent la fin de vie de cette personne malade, mais elles continuent aussi d'exister à travers le deuil des proches. Le moment du mourir habite ce deuil. L'enjeu de la fin de vie, ce n'est pas seulement l'enjeu d'un instant, l'instant du basculement de la vie à la mort, mais on pourrait dire qu'il s'agit de la conclusion de l'histoire de vie du malade et aussi de l'ouverture de l'avenir de l'histoire familiale, de l'avenir de l'histoire de ses proches, où se mélangent leur passé avec le défunt, leur souvenir des soins, du décès et l'avenir de leur confiance envers les soignants. Les décisions concernant la fin de vie d'une personne ont une gravité certaine pour elle, mais aussi pour la constellation de relations qui l'entourent et qui lui sont liées. Depuis 2016 et la loi Claeys-Leonetti, devant la difficulté à soulager la douleur, il est possible d'avoir recours à la sédation profonde et continue. Le but de cette pratique est de préserver la dignité du patient en lui épargnant des souffrances et en continuant à l'accompagner jusqu'à son décès. D'un autre côté, certains États ont légiféré sur une autre possibilité, la possibilité d'une mort qui est donnée activement. Cette possibilité, désignée soit comme euthanasie, soit comme suicide assisté, soit comme aide médicale à mourir, recouvre des pratiques qui sautent le pas d'une mort provoquée. Pour aborder ces questions, j'accueille Anne-Marie Savard.
Alors, je suis Anne-Marie Savard, professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la chaire Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés.
Et j'accueille également Brieux-Henri.
Je suis Brieux-Henri, je suis médecin gériatre formé en soins palliatifs et donc je travaille sur l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Purpan et également sur l'équipe mobile de soins palliatifs du CHU de Toulouse.
Bienvenue à tous les deux.
Merci.
Anne-Marie, ma première question s'adresse à vous. Pourriez-vous nous dire comment c'est fait, comment s'est déroulé le changement de loi qui a eu lieu au Québec? Est-ce que ce changement de loi, puisque la loi sur l'aide à mourir existe, est-ce qu'il correspondait à un débat de société qui était déjà installé au Québec?
Oui, absolument. Écoutez, chez nous, la manière dont ça s'est passé, c'est qu'en 2009, une commission transpartisane a été créée à l'Assemblée nationale du Québec, formée de 9 députés provenant de différents partis politiques. Et ce qu'ils ont eu comme mission de faire, c'est de faire des consultations publiques à la grandeur du Québec pour prendre le pouls, justement, des Québécois, à savoir s'ils en étaient rendus à adopter une pratique comme celle de l'aide médicale à mourir. Et à l'issue de cette commission, ils ont formulé un rapport très clair selon lequel les Québécois étaient finalement rendus là, comme on dit au Québec. Et je vous dirais que quand je regarde un petit peu les débats ici qui se passent en France dans le cadre de la mise en œuvre de la loi, enfin, qu'on pense qu'il y aura lieu, qu'il sera adopté, je vois beaucoup de dissensions, beaucoup d'oppositions qui se font entendre de la part notamment des médecins, mais d'autres personnes de la société civile. Et je vous dirais que ça contraste beaucoup avec ce qu'on a connu au Québec où tout était vraiment favorable finalement à l'aide médicale à mourir. Donc, en 2012, ils ont remis le rapport et à la suite de quoi, il y a eu une autre commission qui a été formée parce qu'il y avait toute une question aussi relative au partage des compétences constitutionnelles parce que évidemment, l'aide au suicide relève du droit criminel canadien, donc de la compétence fédérale, alors que le Québec et toutes les provinces ont compétence sur la propriété et les droits civils. Donc, c'est dans ce contexte qu'on pouvait légiférer sur les soins et non pas sur un acte criminel. C'est la raison pour laquelle, chez nous, l'aide médicale à mourir est nommée comme telle et est constituée comme étant un soin. Et donc, on a vu cette loi entrer en vigueur en 2015, le 10 décembre 2015. Voilà.
Ah oui, c'était donc une situation dans laquelle la société était prête, en fait.
On était en bonne marche, ouais. Effectivement, tout à fait.
C'est ça. Brieux, dans votre expérience des soins palliatifs, est-ce que vous avez le sentiment que ce thème, cette demande de mort, cette possibilité de la demande de mort, elle est devenue plus importante, elle est plus présente chez les proches ou chez les patients ?
Chez les personnes qu'on accompagne, on a une particularité, c'est qu'on voit quand même sur l'équipe mobile de soins palliatifs et sur l'unité de soins palliatifs, les situations les plus complexes des patients qui sont accompagnés en situation d'oncologie ou d'autres maladies incurables. Et donc, c'est vrai que ces demandes d'aide à mourir, ces demandes de mort, elles peuvent revenir assez fréquemment dans notre expérience, même si finalement, ça concerne effectivement qu'une minorité de patients. Pour autant... quelle que soit la proportion de patients que ça concerne, c'est vraiment l'expression d'une souffrance et cette souffrance, elle doit être entendue, elle doit être évaluée. Mais je ne sais pas si depuis quelques années, effectivement, on a de plus en plus de demandes en ce sens ou non. Mais c'est quelque chose qu'on voit quand même assez fréquemment au cours de notre pratique.
Oui, mais il n'y a pas de nouveauté d'après vous dans votre pratique, il n'y a pas... finalement, un changement particulier
Aujourd'hui, avec les débats qui sont en train de se tenir et puis qui se sont tenus avec la Convention citoyenne sur la fin de vie sur l'année dernière, c'est quand même quelque chose que les personnes soignées mettent en avant, le fait que la loi est en train de changer et alors parfois aussi avec regret d'être dans une situation où la loi n'est pas encore passée, mais en tout cas ça peut effectivement modifier un petit peu le discours, le fait que la législation soit en train d'être modifiée.
Et est-ce que vous avez connu dans votre pratique des situations dans lesquelles la demande de mort est suffisamment importante ou certaines pour qu'un voyage dans un pays étranger soit organisé par les proches ou par le patient lui-même, d'ailleurs.
Oui, ça nous est arrivé parmi les personnes qu'on a accompagnées, qu'il y ait ce projet qui soit porté. Alors, surtout en Suisse, pour aussi des raisons un petit peu de proximité, parce que oui. La Belgique, c'est quand même vraiment beaucoup plus loin par rapport à Toulouse. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir informer ce qui existe en France, ce qui est possible en France, ce qui existe dans les autres pays. On n'est pas là pour orienter le patient vers tel ou tel projet, mais effectivement, il y a des patients qui ont été d'emblée, sont arrivés avec ce projet. Alors, j'ai le souvenir d'une situation où effectivement, la personne l'a concrétisé. La majeure partie des situations, quand même, les personnes qu'on rencontre sont assez altérées, avec des maladies qui évoluent parfois vite. Souvent, quand même, ce projet, il est difficile à mener parce qu'il nécessite une certaine indépendance physique, une capacité à aller effectivement une première fois en Suisse, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément envisageable pour tous les patients qu'on accompagne. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a eu parfois des situations assez complexes où le patient était toujours dans cette demande-là et dans ce souhait-là de pouvoir mettre fin à ses jours par lui-même, sans qu'il soit en capacité de le faire, d'aller en Suisse, et où l'investissement dans le projet de soins qu'on pouvait lui proposer était difficile.
Parce que dans ces circonstances-là particulières, est-ce que vous avez le sentiment que la possibilité de la sédation profonde et continue, ça peut être une réponse à cette demande de mort ?
C'est difficile pour moi de mettre sur le même plan, effectivement, une aide médicale à mourir et une sédation profonde et continue. Pour moi, la législation de 2016, la loi Claeys-Leonetti, qui instaure la possibilité d'une sédation profonde et continue, donc qu'on maintient jusqu'au décès, elle est là vraiment dans le cas où on est face à une souffrance qu'on ne peut pas soulager, avec un pronostic de vie qui est quand même engagé à court terme. C'est-à-dire que le décès du patient est attendu dans les prochains jours. Et donc, dans ce cas-là, on est sûr, ou quasiment sûr, en tout cas, quand on fait la sédation, que ce n'est pas l'acte de sédation qui va mettre un terme à la vie du malade, mais c'est bien l'évolution de la maladie. Et en se plaçant sur un paradigme d'aide médicale à mourir, on est vraiment complètement différent, où l'intentionnalité serait de mettre un terme à la vie du malade, donc en répondant directement à ce désir de mort qu'il peut exprimer. Tandis que sous la législation actuelle, et dans l'éthique médicale telle qu'on a l'habitude aussi de la pratiquer au quotidien et dans notre pratique routinière, on répond pas forcément à la demande de mort, mais on essaye de répondre à la souffrance qu'il y a derrière cette demande de mort.
Oui, donc c'est ça, soulager la souffrance, c'est ça finalement la vraie réponse à la demande de mort, c'est ça?
Oui, alors c'est toujours difficile et simpliste hein, de dire que 100% des demandes de mort répondraient à un apaisement des souffrances, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales ou spirituelles, comme on peut essayer de le travailler sur les unités de soins palliatifs, mais... Alors, c'est sûr que la majeure partie, quand même, des situations où les patients sont en demande qu'on abrège leur vie, changent avec la prise en compte de ces dimensions-là de la souffrance.
D'accord. Sur le passage, enfin, vous avez déjà dit quelques mots à ce propos, mais quand vous prenez une décision d'accéder à une sédation profonde et continue, comment se passe la décision? J'imagine que c'est une décision collégiale.
Alors, la décision revient au médecin responsable du patient. Mais effectivement, il y a une procédure collégiale avec une discussion qui se fait alors, avec donc, le médecin responsable du patient, qui est un petit peu le chef d'orchestre de la discussion. Et puis, autour de lui, on va se réunir avec un médecin extérieur, avec idéalement le médecin traitant si c'est possible, le médecin oncologue si c'est un patient qui est suivi en oncologie, avec en tout cas des médecins qui peuvent connaître le patient et qui sont en lien avec la pathologie principale dont il est atteint. Et donc, en plus de ces médecins, on vient s'entourer aussi de l'équipe de soins qui est autour du patient. Et le but, c'est vraiment d'avoir une discussion en collégialité, en interdisciplinarité, où chacun va venir apporter son éclairage sur une situation qui est nécessairement très complexe. Et au terme de cette discussion, chacun va exprimer voilà, si pour lui, au terme de la loi, la demande du patient elle est recevable. Et ensuite, c'est le médecin responsable qui prend la décision pour des questions de responsabilité aussi légales. Mais voilà, il y a quand même une collégialité qui est au centre des décisions de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Aujourd'hui, dans le projet de loi, cette collégialité, elle semble absente ou en tout cas minimisée, puisqu'on parle aujourd'hui d'avis pris par le médecin responsable, mais sans qu'il y ait vraiment une réunion tenue entre ces différents intervenants.
Mais cette collégialité, c'est quand même aussi, c'est ce que j'entends, une interprétation de la loi. C'est-à-dire que chacun se demande si ça correspond vraiment aux critères qui sont établis par la loi. Et... justement, peut-être que Anne-Marie, vous pourriez nous dire en quelques mots quelles sont les conditions d'accès qui sont décrites aujourd'hui pour l'aide médicale à mourir au Québec?
Très bien. Oui, d'abord, je ferai une petite distinction puisque je vais vous parler de la demande contemporaine d'aide médicale à mourir puisque dans un nouveau projet de loi qui est entré en vigueur en 2023, on prévoit éventuellement la demande anticipée d'aide médicale à mourir qui entrera en vigueur au plus tard, au mois de juin 2025. Donc, c'est sûr que là, c'est tout un autre domaine, tout un autre chapitre qui va s'ouvrir pour, par exemple, permettre aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui auront consenti, évidemment, lorsqu'elles étaient aptes à consentir, à obtenir l'aide médicale à mourir. Lorsqu'elles seront rendues à un stade qu'elles auront préalablement décrit dans un formulaire avec le médecin, une personne de confiance, etc. Mais concernant la demande contemporaine qui actuellement a cours au Québec, oui, il y a quelques conditions que je peux vous énumérer. Donc, d'abord, la personne doit être assurée par la loi, au sens de la loi sur l'assurance maladie. L'idée étant qu'on ne souhaite pas qu'il y ait justement un tourisme de l'aide médicale à mourir. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas assurées, encore une fois, au sens de la loi, ne peuvent pas obtenir l'aide médicale à mourir. La personne aussi doit être majeure et apte à consentir aux soins. Il y a une petite exception concernant l'aptitude qui a été introduite par le projet de loi 11 dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que le médecin ou le professionnel compétent, puisque maintenant les infirmières praticiennes spécialisées peuvent provoquer l'aide médicale à mourir, donc peut éventuellement faire cette procédure à une personne qui a perdu l'aptitude au moment d'obtenir ce soin, entre guillemets, si Ça vient tout juste de se produire, mais qu'elle aura préalablement consenti. Mais en principe, lorsque la personne reçoit l'aide médicale à mourir, elle doit quand même être apte à consentir aux soins. Nous avons, à la suite d'un jugement de la Cour supérieure du Québec de 2019, retiré le critère de fin de vie, c'est-à-dire qu'avant, une des conditions pour obtenir l'aide médicale à mourir, c'était que le patient devait être en fin de vie, tant dans la loi québécoise que dans le Code criminel canadien. Pour des raisons que je ne vous expliquerai pas ici, ce critère a été donc retiré de la loi, ayant été jugé donc inconstitutionnel par une décision de la Cour supérieure du Québec de 2019. Quatrième condition, le patient doit se trouver dans l'une ou l'autre de ces situations, soit être atteint d'une maladie grave et incurable dont la situation se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités, d'une part, ou d'autre part, nouveau critère aussi, elle peut, cette personne, être atteinte de déficiences physiques graves entraînant des incapacités significatives et persistantes. Donc ça, ça ouvre la porte, bien sûr, à des personnes, par exemple, qui sont atteintes de paralysie cérébrale sans avoir d'autres maladies sous-jacentes. Et finalement, cinquième condition, la personne doit bien sûr éprouver des souffrances intolérables, des souffrances, je précise, physiques ou psychiques, graves, intolérables et qui ne parviennent pas à être soulagées par des soins palliatifs, à son avis. Voilà. D'accord. Essentiellement, ce sont les conditions posées par la loi concernant les soins de fin de vie québécoise.
D'accord. Ah oui, c'est très éclairant. Et est-ce que vous avez pu observer les effets sur la société après la modification de la loi québécoise? Par exemple, est-ce qu'il y a eu beaucoup de... Finalement, est-ce que cette loi a été beaucoup utilisée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes d'aide médicale à mourir?
Énormément. Ah. Si je vous disais qu'on est la juridiction au monde avec le plus haut taux de décès provenant de l'aide médicale à mourir, dans le rapport 2022-2023 de la Commission sur les soins de fin de vie, on a relaté 6,8% des décès attribuables à l'aide médicale à mourir, donc une augmentation de 42% par rapport à l'année précédente. C'est énorme. Et c'est effectivement, je dirais, préoccupant, du moins ça l'est aux yeux de la ministre des Aînés qui a justement dégagé des fonds de recherche pour examiner un petit peu les raisons pour lesquelles les Québécois ont ce taux, cette incidence de mort provoquée par l'aide médicale à mourir, qui est bien au-delà des juridictions qui ont légiféré bien avant nous, Pays-Bas, Suisse. Donc, c'est assez... bon, est-ce que ça va peut-être se stagner à un moment donné et qu'on va... Mais c'est vrai que cette hausse, je dirais, pas fulgurante, mais très importante, et oui, est questionnable.
Parmi ces demandes, est-ce que vous avez connaissance de... quelles sont les personnes concernées? Quel type de pathologie, par exemple, est le plus concerné?
Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, cette fameuse commission sur les soins de fin de vie doit rendre un rapport annuel, donc chaque année. Et donc, on a vraiment toutes les statistiques relatives au type de personnes qui reçoivent ce soin. Et en général, on dit qu'elles sont âgées de 70 ans et plus, à hauteur de 72 %. Elles sont atteintes de cancer. C'est encore le cas aujourd'hui pour 63 % des personnes qui reçoivent l'aide médicale à mourir. Elles ont un pronostic de survie de 1 an ou moins, à hauteur de 82 %. Et finalement, 97 % des personnes disent souffrir de manière importante de souffrances tant physiques que psychiques. Donc, c'est à peu près le topo global. Évidemment, il y a des exceptions. Et peut-être fait à noter intéressant, c'est que le rapport note que 99,5% des aides médicales administrées le sont de manière conforme à la loi. Donc, c'est vrai que tout le monde dit « Ah, ben quand même, c'est très, très bien », mais il n'en demeure pas moins qu'il y a 0,5% des cas qui ne sont pas administrés de manière conforme à la loi. Et on note dans le rapport, je vous donne un exemple, que 16 personnes ont obtenu l'aide médicale à mourir sans souffrir d'aucune déficience physique grave, d'aucune maladie. Ces personnes étaient certes très âgées, en perte d'autonomie importante, mais elles n'avaient pour incidence physique que le fait d'être très âgées. Donc, voilà. Alors, ça peut ça aussi être questionnable. Oui, ce n'est que 0,5%, mais quand même, on voit que certains médecins ou en tout cas professionnels compétents peuvent avoir des notions un petit peu élastiques là, des critères de la loi.
parmi donc ces retours, vous avez noté, ou est-ce que cette question est soulevée, la question de la situation sociale des personnes qui ont recours à l'aide médicale à mourir?
Pas vraiment, parce que vous savez, chez nous, on a un système public, un système de santé publique et universel. Donc, c'est vrai que cet enjeu, par exemple, contrairement à des juridictions comme l'Oregon, où on sait très bien que 80 % des personnes qui ont recours à l'aide médicale à mourir n'ont d'autres soins et services de santé ou enfin d'assurance que Medicaid ou Medicare. Donc ça, c'est très préoccupant. Au Québec, on n'a pas ce problème, c'est-à-dire que toute personne peut avoir accès et a le droit d'avoir accès, par exemple, aux soins palliatifs, incluant la sédation palliative continue, donc tous les soins. Donc c'est vrai que ce n'est pas un enjeu, mais on n'a pas de données encore. C'est intéressant, cette question de données sociales et démographiques, parce qu'au-delà de l'accès aux soins, il peut y avoir quand même des données démontrant effectivement un niveau de vie, une scolarisation, les codes postaux différents, parce que selon les régions, évidemment, ça... Donc, ça, je pense que ça mériterait effectivement d'être relaté dans le rapport, mais on les a pas, ces informations.
Je vous pose cette question aussi parce qu'en France, on a aussi une couverture sociale, une sécurité sociale qui est satisfaisante. Pourtant, tous les territoires n'ont pas le même accès aux soins. Mm-hmm. Hein. Donc, c'est pour ça que je me posais la question du Québec.
Pour l'accès aux soins palliatifs, effectivement, on note, souvent on dit qu'on a accès en fonction de notre code postal, comme je vous dis. Le territoire est relativement vaste, très concentré dans les centres urbains. Donc, effectivement, dans les régions, il y a une disparité peut-être d'accès, mais je ne dirais pas que... En tout cas, c'est très intuitif, hein, ce que je vous dis, mais je ne dirais pas que c'est une donnée qui influence, en tout cas, le taux peut-être assez important d'aide médicale à mourir, jusqu'à preuve du contraire. On verra bien.
D'accord, oui, ça reste à étudier peut-être. Ouais. Et justement, Brieux, à propos de cet accès aux soins qui est parfois inégal, on entend souvent dire que peu de personnes ont accès aux soins palliatifs et que le plus souvent, la promesse d'une fin de vie digne ne serait pas au rendez-vous. Dans votre pratique, peut-être que vous pouvez nous expliquer comment les malades arrivent dans votre service ?
Oui, alors nous, sur Toulouse, on a deux unités de soins palliatifs. On a une unité donc sur le CHU à l'hôpital Purpan et une unité sur l'hôpital Joseph Ducoing qui ont chacun 10 lits. Ces deux unités, elles accueillent globalement des personnes qui sont dans des situations similaires avec une diversité de pathologies. Nous, on essaye de prendre au maximum des personnes qui viennent directement du domicile en évitant des recours aux urgences qui sont souvent source aussi de difficultés pour les patients et puis pas forcément appropriées pour les médecins urgentistes. On a aussi beaucoup de patients qu'on admet par les services d'oncologie du CHU. On a des patients qui peuvent venir de la neurologie, de la gériatrie, ou en tout cas beaucoup de personnes du CHU, mais des personnes qui viennent aussi directement de leur domicile ou des hôpitaux cliniques environnants, puisque le CHU a quand même vocation à avoir une activité de recours. Et donc, on peut être amené à admettre des patients qui sont de toute la région Occitanie-Ouest, selon la possibilité de les prendre en soin sur l'hôpital de proximité ou pas.
Et 2 fois 10 lits, c'est quand même assez peu. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'avoir accès à des soins palliatifs? C'est-à-dire, vous, par exemple, votre équipe, est-ce qu'elle est en soutien avec d'autres structures, qu'ils soient publiques ou privées, par exemple?
Oui. Alors, effectivement, 2 fois 10 lits, ça peut paraître très peu. Après, il faut se rappeler que les unités de soins palliatifs, elles sont vraiment amenées à prendre en soin les patients les plus complexes. Pour cela, Toulouse, au niveau du ratio de lits de soins palliatifs par rapport au bassin d'hospitalisation, est plutôt bien dotée. Mais avec la limite de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on admet quand même des patients de l'extérieur du bassin de vie toulousain. Pour ce qui est des autres possibilités de prise en charge palliative, aujourd'hui, la loi en France, elle est faite de telle manière que, théoriquement, les soins palliatifs peuvent être administrés ou en tout cas peuvent être pratiqués, doivent être pratiqués dans tous les services de l'hôpital, des cliniques et également au domicile. Ça passe par un maillage du territoire et des hôpitaux avec des équipes mobiles de soins palliatifs qui vont venir voir les patients soit à leur domicile, département par département, soit dans les services de l'hôpital avec nous, une équipe mobile qui est rattachée au CHU et puis des équipes mobiles qui peuvent se déplacer dans les cliniques, etc. Et donc, qui vont permettre d'apporter un soutien, effectivement, une aide à la prescription, une aide à l'évaluation de certaines souffrances et puis une aide aussi à l'orientation des patients. Est-ce qu'ils sont... adapté au niveau de la complexité, au niveau de la nécessité de prise en soins pour rester dans un service comme un service de cardiologie, de néphrologie ou d'oncologie. Est-ce qu'ils doivent être admis sur une unité un petit peu plus spécialisée, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lits identifiés de soins palliatifs, qui sont des lits au sein de différentes structures hospitalières publiques ou privées, avec ça se traduit en fait avec une dotation un petit peu supplémentaire en personnel pour pouvoir prendre en soin des patients qui ont besoin effectivement de plus de temps, etc. Donc ça va être un niveau un petit peu intermédiaire, et il faut orienter les patients plutôt sur une unité de soins palliatifs, donc là avec effectivement une dotation en soignants et des médecins qui sont spécialisés en soins palliatifs pour offrir une prise en soins qui va correspondre aux cas les plus complexes parmi les personnes soignées.
Je vous remercie beaucoup tous les deux, Anne-Marie Savard et Brieux-Henri. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé.
Merci.
Merci à vous.